Classique.
Bonjour, nous vous proposons ce dimanche et dimanche prochain une nouvelle diffusion de deux émissions sur mai 68, une époque des événements que notre invité connaît bien puisqu'il a vécu cette page d'histoire qu'il analyse d'ailleurs dans un livre que je vous recommande, mai 68, l'héritage impossible aux éditions La Découverte. Mais ce n'est pas pour parler de ce livre-là, mais d'un autre que nous l'avons invité, celui qu'il vient d'écrire, un récit d'égo-histoire, comme on dit aujourd'hui, qui nous apprend ou nous rappelle ce qu'était la société française avant 1968. Il est bienvenu. Notre invité, Jean-Pierre Le Goff, il vient d'écrire La France d'hier, récit d'un monde adolescent, des années 50 à mai 68, un ouvrage publié chez Stock. Ce livre, écrit-il, voudrait faire comprendre de l'intérieur le climat d'une époque et comment se sont nouées dans cette période des contradictions qui éclateront au grand jour en mai 68. Voici donc une nouvelle diffusion du magazine Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Vous pouvez le retrouver sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Bonjour Jean-Pierre Le Goff.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro avec nous. Vous êtes philosophe, sociologue, vous intéressez à la vie politique, aux questions liées à la démocratie. Vous avez beaucoup écrit sur ce sujet et vous intéressez évidemment aux mutations de notre société. Et là, on va parler de votre livre magnifique qui a été fort remarqué d'ailleurs à juste titre, La France d'hier, ce récit d'un monde adolescent. Je citais une phrase de ce livre où vous parlez des contradictions qui vont éclater au grand jour en mai 68. De quoi s'agit-il? Quelles sont ces contradictions?
Bien, si vous regardez La France d'hier, elle est caractérisée par deux choses. D'une part, les survivances de l'ancien monde. Moi, j'ai été éduqué, élevé, j'allais dire à ce qu'on appelait le bout du monde, dans le Cotentin.
À Écœurdeville.
Dans la Manche. Vers la Hague, qui est la pointe extrême du Cotentin, avec des restes de traditions anciennes, avec un poids de la campagne, avec un poids des bourgs, des notables traditionnels qui dirigent la ville, avec un poids très important de la religion, et plus précisément d'un catholicisme, avec un poids du moralisme, et ce qu'on appelle le dolorisme, où la souffrance est valorisée. Donc vous êtes né, vous avez été élevé et éduqué sur ce terreau. Et ce terreau, il marque le monde ancien avec des restes du 19e siècle. Et en même temps, vous allez grandir, vous allez devenir adolescent, et tout d'un coup, vous allez entendre, par exemple, la musique rock, avec Kelly Watch de Johnny Hallyday, par exemple. Ce qui m'est arrivé, je devais avoir 11-12 ans, aux portes de l'adolescence. Et en même temps, vous apercevez qu'il y a des éléments totalement nouveaux, c'est-à-dire la société bascule vers une nouvelle étape historique après la guerre. Globalement, d'ailleurs, c'est pas simplement le cas de la France, les sociétés sont en train de résoudre un problème qui a hanté les sociétés dans le passé depuis la révolution industrielle du 19e siècle, mais même bien avant, qui est la question du paupérisme, c'est-à-dire l'extrême misère. On sort de ce moment-là, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas encore des inégalités, encore des injustices, il y a encore des bidonvilles, mais globalement, on sort, il y a une nouvelle étape historique. Et on débouche sur une société radicalement nouvelle, qui est une société qu'on pourrait dire de consommation, des loisirs, qui sont aussi importants et très liés aux consommateurs.
Oui,
on l'oublie souvent, des masses médias, ce qu'on appelle à l'époque les masses médias. Donc, on bascule dans le nouveau monde. Et vous êtes adolescent. Qu'est-ce que l'adolescence? C'est le passage de l'enfance vers l'âge adulte, qui se fait pas si facilement que
non,
cela.
En général, ça se fait dans la douleur.
Ça se fait dans la douleur, il faut laisser le monde de l'enfance pour aller vers le monde adulte. Et vous êtes... Ce moment de passage fait écho au moment de basculement de la société, c'est-à-dire vous avez un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, et vous allez ressentir vivement cette contradiction entre les restes de l'ancien monde et la nouvelle société.
Alors nous allons revenir sur tous ces thèmes, Jean-Pierre Le Goff, évidemment, avec en plus des archives sonores, des petites trouvailles sonores qui vont parsemer, illustrer vos propos, Jean-Pierre Le Goff, et tout de suite, je vous propose de partir au début des années 60 avec un extrait d'un film célèbre de Truffaut, les 400 coups. Et là, on va se trouver propulsé tout de suite dans une classe d'école de l'époque avec Antoine Doinel.
Un jour, que virgule fatigué, je dormais dans mon gîte, la petite Margot me surprit. Sur la gîte. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, Simoneau?
J'ai rien fait, monsieur.
Naturellement, c'est toujours l'autre. Certes, elle m'aimait bien, la gentille maîtresse. Quelle bonté pour moi, que de soins, de tendresse, comme elle me pressait sur ses petits genoux et me baisait. Quelle imbécile qui a sifflé ? Ah, je vous préviens, je vais être injuste. Si le coupable ne se dénonce pas, c'est le voisin qui prendra, n'est-ce pas, Simoneau ?
Mais je vous jure, monsieur !
Oh !
C'est pas moi, monsieur !
Des lâches, en plus. Ah, quelle année, quelle classe ! Ah, j'en ai connu des crétins, mais au moins ils étaient discrets. Et vous ? Vous pensez avoir effacé ? Non, vous avez sali, mon ami. Allez à votre place copier la citation. Tant pis pour vous, vos parents paieront. Ah, elle va être un peu belle, la France, dans 10 ans.
Alors ça y est, nous sommes dans l'ambiance grâce à cet instituteur qui lit d'ailleurs entre parenthèses un texte qui s'intitule « Épitaphe pour un lièvre », un texte d'un auteur qui s'appelle Jean Richepin, un texte de la fin du 19e siècle. Entendu ce qu'il dit, hein, elle sera belle la jeunesse dans 10 ans. Nous sommes, le film a été tourné en 59.
Bah, je pense que c'est un film ethnologique fondamental pour rendre compte du climat d'une époque. Je crois que c'est vraiment un document. Moi-même, je l'ai fait découvrir à mes propres enfants. Parce que je trouve que là, on est vraiment projeté dans une classe avec deux choses, quand on écoute bien. Il y a d'abord la transmission, j'allais dire, des classiques, à travers notamment les dictées. C'est-à-dire, oui. Nous, les jeunes de l'époque sont encore dans une filiation historique et dans la transmission d'un héritage qui les relie d'une certaine façon à toute une France ancestrale. Si vous voulez. Bon. Et en même temps, vous avez, il y a ça, une discipline et une contrainte externe sur les corps, qui est quand même assez rigide. C'est-à-dire, attention, bon, ce qui vous empêche pas de chahuter. Donc, c'est ces deux choses-là que montrent bien les choses avec une tentation de l'adolescence. C'est que vous vivez dans une nouvelle société où tout paraît, peut-être le bonheur est à portée de main. Ouais. Vous voyez, avec un nouvel hédonisme. Et donc, vous êtes exactement dans cette contradiction. Et les instituteurs, les adultes qui, eux, ont connu la guerre, ont connu les privations, découvre une jeunesse qui déjà, il se dit, mais ça va donner quoi tout ça?
Alors, vous soulignez l'importance de l'école dans votre parcours singulier, Jean-Pierre Le Goff. Et je vous cite d'ailleurs, vous écrivez ceci. L'école n'était pas considérée comme une sorte de perpétuel jardin d'enfants ou le lieu d'une citoyenneté avant l'heure. Les enseignants ne nous considéraient pas comme des petits anges ou des génies créateurs, mais comme de très jeunes élèves ayant une part sauvage qu'il fallait dresser et des capacités qui ne pouvaient se révéler que par l'acquisition des connaissances. Ça, c'est fondamental.
Bah, c'est-à-dire, là, on voit tout à fait le contraste avec le monde d'aujourd'hui. Je dis souvent que le monde d'hier était un monde dur, mais il n'était pas inhumain. Ça, c'est fondamental. Et si je fais comprendre ça aux nouvelles générations, j'en serais particulièrement heureux, si vous voulez. Parce qu'il y a une vision totalement noire de la France d'hier et du monde ancien. On dirait que tout commence en 68. Alors, ce monde est dur parce qu'il y a cette contrainte, mais en même temps, vous apercevez, quand vous êtes enfant, l'enfance demeure l'âge de l'insouciance. Je le dirais de façon un peu schématique, qu'on n'est pas sans arrêt en train de tendre le micro aux enfants pour leur demander leur point de vue sur tout, notamment sur ce qui se passe en politique ou dans le monde, voyez. C'est-à-dire qu'il y a ce moment de l'insouciance, qui est la première étape de la vie, et une autre étape de la vie qui s'appelle l'adolescence, où là on peut expérimenter la limite, flirter avec la limite, sous le regard plus ou moins bienveillant des adultes, et il y a des limites à pas franchir du côté du désordre, mais enfin, il faut que jeunesse se passe. Et à chaque moment de la vie, si je prends, vous avez des rituels, qui d'ailleurs la religion joue beaucoup, le baptême, la communion solennelle, ensuite vous allez devenir adulte, pour les garçons c'est le service militaire, c'est le mariage comme institution, et donc chaque étape de la vie est ainsi balisée. Et le but, c'est de devenir un adulte. Vous voyez, ce n'est pas du tout comme aujourd'hui, dans l'enfance par exemple, je trouve qu'on embête beaucoup les enfants. C'est-à-dire les enfants, n'ont jamais été autant valorisés. Pour moi, ils sont en même temps abandonnés. Parce que le rapport avec la famille, le père ou la mère, est beaucoup plus distendu d'une certaine façon. Ou alors, on les embête. On les embête en disant, voyons quelles sont leurs idées, il faut qu'ils soient performants dès qu'ils sont petits, il faut éradiquer les idées qu'ils ont dans la tête sexistes, et vous avez des spécialistes qui vont les observer. Là, vous aviez le sentiment, il y avait encore des terrains vagues, vous aviez le sentiment, alors évidemment, ça se payait par des plaies et des bosses. Alors, vous étiez libre.
Tous ceux de cette génération et ceux qui ont suivi, les enfants qui ont suivi, qui sont un peu plus jeunes aujourd'hui, sont séduits par ces pages où vous décrivez votre enfance d'une grande liberté tout en étant encadré.
On est encadré par la collectivité sans le savoir. Ça veut dire que comme tout le monde connaît tout le monde dans les bourgs ou dans les quartiers, vous n'avez pas intérêt à dépasser un certain nombre de limites parce que vous aurez les parents sur le dos, si vous voulez. C'est aussi bête que ça. Et je dirais qu'il y a une intériorisation des bornes à ne pas dépasser, si vous voulez, des interdits. Donc vous pouvez vous battre, il y a des moments où moi je reçois, on se bat coup de caillou à l'époque, oui. Je reçois un caillou sur la tête, etc. Bon, mais on dit c'est un peu comme la guerre des boutons, pour référer oui. À ce film. C'est exactement cette ambiance-là. Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir des corrections, si vous voulez. Hein. Mais bon, globalement, vous avez cette liberté entre jeunes. Vous pouvez jouer en plus dans la rue, parce que c'est pas encore les voitures qui passent. Donc il y a des terrains de jeu, il y a encore des terrains vagues. La guerre n'est pas loin en Normandie, encore des bunkers allemands, vous jouez à la guerre. Il n'y a personne pour vous dire, attention, c'est pas bien de jouer à la guerre, parce que machiste, virilité, guerre, etc. Pour les garçons, vous voyez. Et bon, il y a des rencontres avec les filles, mais peu, en fait. Hein. L'éducation est quand même assez séparée.
Alors, on va y revenir, bien entendu, Jean-Pierre Le Goff. À Cœur de Ville, vous rendez aussi hommage à ce que vous appelez le petit peuple de la rue Gambetta, qui était votre rue.
Si vous voulez, c'était le petit peuple d'avant, quoi. Mais vous le trouviez à Paris, ouais. Dans les quartiers populaires à Paris. C'était le même peuple qui était fait de commerçants, d'artisans, de petits patrons et de cafetiers. Il se trouvait que quand j'étais très petit, mes parents tenaient un café où ils vendaient à la fois des coquillages et des bolets de cidre à l'époque, où il y avait les ouvriers de l'arsenal et les gens de la rue. Donc c'était, ça se mélangeait. Alors tout le monde n'avait pas, si vous voulez, une égalité de conditions, mais en jouant sur le trottoir, ceux par exemple comme moi qui étaient élevés dans l'école privée, se mélangeaient à ceux de l'école laïque, si vous voulez. Donc il y avait des rencontres entre les différentes classes sociales, et l'important, disait mon père, même quand vous aviez des officiers
votre
de marine...
Votre père pêcheur.
Qui était mon père était marin pêcheur, artisan pêcheur. Et il disait, l'important c'est que ceux-là, même s'ils sont pas de notre catégorie, ils ne sont pas fiers. Mmh. Et vous pouvez boire un coup avec eux, vous voyez. Ça, c'était l'ancien peuple de France, j'allais dire. Mais vous savez, même en 68 à Paris, dans le quartier latin, il n'y a pas que des étudiants. Il y a encore des artisans. Il y a le Mouffetard, c'est pas le machin pour touristes où arrivent je sais pas combien de bus qui envahissent tout avec des photos. Vous voyez, il y a encore des derniers restes de cet ancien peuple.
Alors, il y a une autre chose qui est importante que vous soulignez dans votre parcours, dans ce récit d'un autre monde qui n'est pas non plus si loin que ça. Faut pas exagérer. Les années 50-60, il y a l'importance de la religion. Et je vous propose d'écouter un autre extrait sonore avec la voix de Jean XXIII qui inaugure le Concile Vatican II. Nous sommes le 12 octobre 1962.
Le Concile, qui s'est ouvert hier en votre présence, manifestait d'une manière éclatante l'universalité de l'Église. Nul doute que cette imposante assemblée de tout peuple, langue et nation, en proclamant la bonne nouvelle du salut à un monde prodigieusement bouleversé de toute manière depuis un siècle, n'apporte la lumineuse réponse de Dieu aux angoissants problèmes des contemporains et n'aide par là la vraie promotion des personnes et des peuples.
Alors ça, c'était la voix de Jean XXIII en 1962, le pape Jean XXIII. Jean-Pierre Le Goff, vous écrivez, on a du mal à imaginer aujourd'hui le poids et l'influence de l'Église catholique en Normandie après la guerre, tout particulièrement dans ce pays du bout du monde qu'était le Cotentin.
Oui, alors
et
là...
toute votre enfance a été marquée par la religion.
J'ai été élevé dans une... J'ai suivi les écoles catholiques, si vous voulez, avec une mère qui était plus que pieuse, quoi, hein, qui m'a amené très tôt, malgré mes révoltes... à la messe et aux vêpres, quand vous êtes petit, ça n'a rien d'évident.
Et à la confession aussi.
Oui, à la confession. Oui. Donc j'ai découvert tout ça avec des billets de confession obligatoires. Bon, dans un collège qui était quand même assez strict. Mais si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est qu'il y avait l'église elle-même, de 45 à 65, parce que tout s'est joué là, la France est, il y a un basculement, mais l'église a fait pareil, a suivi d'une certaine façon. Là, il y avait tous les restes de l'ancien. Je raconte ce catéchisme. D'ailleurs, j'ai été très surpris parce que j'avais pas relu le catéchisme de l'époque. J'ai redécouvert, ma mère avait soigneusement gardé mes anciens livres de messe, enfin, le catéchisme. Donc j'avais tout, si vous voulez, quand elle est décédée, j'ai récupéré ça. Et j'ai été frappé par le nombre de choses qu'on vous faisait apprendre par cœur. C'est-à-dire, tous les dogmes catholiques, on devait les réciter. Vous aviez un examen. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un être infiniment bon, infiniment parfait. Qu'est-ce qu'un ange? C'était très très détaillé. Et plus les prières à apprendre par cœur. Et le pari, d'ailleurs, des curés de l'époque, qui était quand même très sévère, hein, qui était quand même, là, je donne des exemples très durs. Je n'ai pas de nostalgie, quand même, du point de vue des coups qu'on pouvait recevoir. Mais, l'idée, elle était la suivante. On profite de l'enfance, on inculque les bases des dogmes, ensuite on sait qu'à un moment, ils vont sûrement se révolter l'adolescence, mais on aura semé, et puis ensuite, on sait jamais, ça pourra revenir. Ce qui s'est passé très vite, c'est qu'on est passé de ce catéchisme extrêmement détaillé avec tous les dogmes de l'Église catholique, à ce que j'ai appelé de façon un peu, pas polémique, mais je l'ai vécu, si vous voulez, les curés en soutane, aux curés à col romain, et ce que j'ai appelé les curés chantants.
Ah, vous avez connu effectivement une mutation.
Très rapide. Très rapide après Vatican II. Et je dois dire que l'Église, on l'oublie souvent, a été à l'avant-garde du point de vue des pédagogies nouvelles. Et que les élites modernisatrices de l'après-guerre, c'est-à-dire la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse agricole chrétienne, qui a joué un rôle fondamental dans la modernisation de l'agriculture, la jeunesse étudiante chrétienne, sont, à mon avis, aussi importants dans ce qui va se passer en mai 68 que les gauchistes. L'Église, ce qu'on appelle les chrétiens de gauche, ont eu un rôle, à mon avis, totalement central. Et moi, je l'ai vécu, si vous voulez, dans le changement de pédagogie, puisque c'était plus les claques, et puis au son de la cloche, c'était ce qu'on appelait l'autodiscipline. Alors évidemment, quand ça vous passez tout de l'ancien monde au nouveau, l'autodiscipline, on nous donne un espace. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait quand vous avez 16-17 ans? Vous le prenez et vous terminez, vous êtes exclu de l'école.
Alors, on va reparler de cette période de l'adolescence. Mais là, attendons-nous encore un peu sur cette époque, sur ces relations entre les parents et vous, sur les relations humaines entre les différentes personnes de votre entourage. Et vous insistez, Jean-Pierre Le Goff, sur la notion de pudeur.
Ah, moi, qui est absolument fondamental et qui contraste totalement avec l'hystérisation dès qu'il se passe quelque chose où tout le monde se met à hurler, exprime ses sentiments, etc. C'est exactement l'inverse, d'ailleurs, avec beaucoup de retenue. Alors, on peut y voir aujourd'hui, certains n'y manqueront pas d'y voir un refoulement. À mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire les rapports parents-enfants étaient à la fois... C'est ça qui est difficile peut-être à comprendre aujourd'hui par rapport à un certain modèle fusionnel. Hein. On embrasse, on enveloppe l'enfant, mais en même temps, on n'a pas trop le temps de s'occuper de lui tous les jours. Donc, c'était plutôt une distance respectueuse tout en montrant des marques d'affection. C'est-à-dire avec le père, notamment. Le père, il y avait quand même ce modèle un peu de la virilité, et je ne critiquerai pas forcément ce modèle, où on a une pudeur des sentiments. Et, par exemple, aux enterrements, les gens pouvaient pleurer, mais discrètement. C'était pas les effusions, etc. D'abord, il y avait une proximité avec la mort qui était beaucoup plus grande. Moi, ma grand-mère, je l'ai vue mourir dans la chambre d'à côté, si vous voulez, hein, le cadavre, vous étiez habitués, vous veillez, etc. Aujourd'hui, on les planque, et surtout, il n'y a plus d'enfants aux enterrements, parce qu'il ne faut pas leur faire peur, même quand ils ont 10-12 ans, enfin, ce qui est quand même extraordinaire. Mais la pudeur des sentiments, je crois que on peut mettre ça facilement sur le compte du machisme. Il y avait effectivement de la virilité. On disait, quand vous êtes un garçon, ça pleure pas. Tu serres les dents, etc. Mais quand vous creusez un peu le sujet, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'il y avait le fait de ne pas déranger les gens dans une effusion trop grande de sa propre subjectivité, de sa douleur. Et quand vous pleuriez, moi j'ai des scènes où les gens se mettaient de côté, si vous voulez. Et le fait, c'est une forme de délicatesse. Ce n'est pas simplement l'ancien monde, etc. Et ça, si j'arrive, par exemple, à faire comprendre ça aux nouvelles générations, j'en suis aussi ravi, parce que là aussi, ils ont une vision, c'était dur, c'était noir, il n'y a pas de sentiments, ben c'est pas vrai. Simplement, il y avait un mode d'expression, des sentiments, je dirais, qui était plus délicat.
Alors, il y a aussi le contexte du moment, le contexte politique, s'entend, nous sommes en pleine période gaulliste, et ça c'est important.
Alors c'est fondamental, parce que c'est un gaullisme particulier.
Le général de Gaulle est au pouvoir depuis...
La grande figure historique est
58.
Au pouvoir. Oui. Mais attention, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas le gaullisme de 1940, il y a encore l'épopée gaulliste, c'est-à-dire on est encore dans le récit de la résistance, on baigne dedans. Moi je vais aux cérémonies des monuments aux morts, etc. Il y a un poids, je dirais, des morts sur les vivants, surtout quand vous êtes jeune. Bon. Mais en même temps, on est dans les années 60, on n'est plus en 58, on n'est pas en 62, au moment du référendum. Faut pas oublier quand De Gaulle a été mis en ballotage en 1965, ce qui est quand même une marque très dure pour lui, symboliquement, et qu'en 1967, les gaullistes, le gaullisme reste dominant, entendons-nous bien, mais il gagne les élections législatives de peu. Donc il y a une érosion, si vous voulez, de gaullisme, avec une contradiction qui existe entre la dimension internationale du gaullisme, la France dans le monde, avec des préoccupations sociales et une nouvelle société. Et précisément, le gaullisme, si vous voulez, c'est la tentation de lier les deux. C'est-à-dire de lier la nouvelle société, parce que De Gaulle est pleinement moderne, il faut que la France épouse son temps, mais en même temps, c'est la France éternelle. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'image de la France. Eh bien, cet équilibre... là aussi, entre le récit ancestral d'une France, d'une certaine image de la France et la nouvelle société, De Gaulle et les élites modernisatrices de l'après-guerre ont tenté de maintenir le fil, il y a un moment, il va y avoir un point de déséquilibre.
Alors, je vous propose d'écouter quelques sons qui évoquent ce basculement. On va écouter d'abord le général De Gaulle en 1965, vous le citez d'ailleurs dans le livre. Ensuite, on écoutera aussi une publicité, une réclame. Et ensuite, un extrait d'une chanson de Boris Vian. On écoute tout ça.
Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Or, le régime des partis, c'est la pagaille.
Oui, pour laver 4 kilos de linge avec seulement 12 litres d'eau chaude, il vous faut bien entendu une machine à laver automatique Philips.
Automatique Philips, car elle vous libère complètement. Elle est pratique, économique et très robuste. Tout émail. Machine à laver automatique Philips. Propreté et longévité de votre linge.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait, que l'on se querelle.
Alors, quelle belle évocation que celle-là, Jean-Pierre Le Goff. On va commencer avec le général De Gaulle en 1965, c'est la campagne présidentielle, justement, où il a été en ballotage. Quelle présence, de vous-même, vous étiez encore étonné de cette façon même de parler du général.
C'est-à-dire que le général De Gaulle était capable de resituer un certain nombre de mesures, de réformes, de modernisation à l'intérieur d'une histoire. ce qu'à mon avis ne savent plus faire du tout les politiques aujourd'hui, qui ont le nez dans le guidon, dans leur activité, qui peuvent être des très bons gestionnaires de dossiers, d'ailleurs assez brillants, mais il leur manque ce souffle historique qui, à mon avis, c'est du moins mon point de vue, est un élément essentiel pour faire le pont avec l'ensemble des, du peuple et notamment des couches populaires. Je pense que c'est ce qui manque essentiellement à la politique.
Alors ensuite, il y a cette publicité formidable.
Alors cette publicité, elle est vraiment tout à fait d'époque.
Parce que vous, vous avez connu cette époque où la publicité commence, vous l'expliquez très bien dans votre livre, commence à apparaître, on s'équipe.
Avec le crédit.
Voilà, c'est ça, on va à la banque pour prendre un crédit. La télévision aussi apparaît.
Alors la télévision avec toujours...
Le RTF.
Oui, alors il n'y a qu'une chaîne. Alors ce qui est tout à fait frappant aussi, la télévision... C'est qu'à la fois, il y a le divertissement, c'est-à-dire la piste aux étoiles, le radio crochet, qui avant le radio crochet, moi j'ai connu, c'était dans les villages, sur la place des, ça continuait d'ailleurs, hein, mais des grands radio crochets. Puis en même temps, on tient quand même à ce que la télévision soit culturelle. N'oublions pas la qualité des émissions de télévision. Cinq colonnes à la une, quand vous revoyez aujourd'hui. Lecture pour tous. Enfin, vraiment, vous dites, mais... avec
C'est-à-dire, lecture pour tous, c'était aller dans un village avec la population et faire lire des textes de Stendhal ou de Flaubert
là,
par la
population. On était dans la filiation historique, si vous voulez, avec une place centrale. En essayant d'ailleurs toujours de maintenir... le divertissement, qui est tout à fait légitime dans une société de consommation, avec les loisirs modernes, l'hédonisme, et en même temps l'affiliation culturelle, voyez. Alors le problème là aussi, qu'est-ce qui va se passer? Cette filiation, est-ce que cet équilibre va durer? Bien non, il y a un moment où ça va sauter. L'exemple du rock et de la montée en puissance de la culture adolescente, je me rappelle d'ailleurs la réaction de mes parents, avec, mais ça ne veut rien dire, mais ma mère avait les vieilles chansons, Mon amant de la Saint-Jean, Jean Lumière, etc.
J'en profite d'ailleurs pour dire Jean-Pierre Le Goff, oui, que le chercheur que vous êtes, le sociologue et philosophe, ne met pas à la fin de son livre une bibliographie de textes importants sur l'époque, mais une discographie et une filmographie, hein, pour se replonger dans l'époque. Ce qui est une très bonne idée d'ailleurs.
Pense que cette époque, pour l'adolescence et les jeunes, la musique a été un vecteur central d'une nouvelle culture, central, de même que le cinéma. Edgar Morin, à l'époque, a écrit de très belles pages sur les stars, le cinéma et l'importance. Mais je vous signale, ça inquiétait en même temps les élites, parce que Malraux, par exemple, avec les Maisons de la Culture, relisait les textes de l'inauguration de la Maison de la Culture d'Amiens. Ces usines de rêve qui vont jouer sur l'émotion... Eh bien, il dit ça fait partie de la modernité, on est dedans, hein, ces machines à rêve. Eh bien, il faut qu'en même temps, il y ait une culture, le peuple puisse avoir accès aux œuvres. Donc, on essaie de maintenir encore l'équilibre à ce moment-là, voyez. Et c'est cet équilibre-là, de Gaulle d'ailleurs, dans l'extrait qu'on a, l'ordre, le mouvement, eh bien, ça va bouger.
Je voudrais vous citer, Jean-Pierre Le Goff, vous écrivez « Quels que soient les aléas et les difficultés de l'enseignement des humanités dans cette nouvelle période de l'histoire, la transmission des classiques de la littérature française a été un élément premier de ma formation intellectuelle, en même temps que mes lectures vagabondes des romans et de la poésie française. Dans ma période gauchiste de l'après-mai 68, cet héritage sera soumis à rude épreuve, mais il continuera malgré tout d'exister en arrière-fond. Peut-être faut-il y voir, avec l'éducation chrétienne et philosophique que j'ai reçue, l'un des facteurs qui m'a empêché, comme d'autres lettrés devenus des révolutionnaires, de sombrer totalement dans le nihilisme et de pouvoir rebondir après une période de crise et de désillusion. » De l'importance d'avoir ce socle.
Ouais, absolument. Et la question aujourd'hui, c'est qu'en est-il de ce socle? C'est-à-dire, quand vous avez, comme moi, été au bout d'une certaine expérience en voulant mettre de façon un peu folle ces idées en cohérence, vous voyez, j'ai quitté, à un moment, j'ai arrêté mes études. Je me suis pas établi, mais je suis parti dans le Nord, Pas-de-Calais, avec une vision totalement idéaliste de la classe ouvrière. Bon, vous en revenez, vous apercevez que vous êtes dans une société moderne, que la classe ouvrière n'est plus la classe ouvrière de 1936, qu'elle a accès à des biens et tout ça, elle est légitime. Puis vous redécouvrez aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur le totalitarisme quand même, hein. Oui. Donc si vous voulez, vous sortez de ça. C'est un échec par rapport. Comment se fait-il que vous rebondissiez après cet échec? Bien, vous apercevez que, parce que j'ai eu des amis à moi qui ont connu ce même échec, qui s'en sont plutôt mal sortis, vous apercevez que c'est le terreau éducatif premier, l'éducation première. Il se trouve que, par exemple, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré un prof de philosophie assez extraordinaire.
Vendaine, alors il faut s'y arrêter quand même, sur ce personnage. Vous y consacrez quelques belles pages. C'était à la fois un philosophe, un vrai philosophe, et un personnage, une personnalité.
Oui, c'était d'ailleurs...
Il vous a
fasciné.
Marqué. Vous aviez quel âge à l'époque? Vous étiez adolescent.
J'ai connu, je devais avoir 16 ans jusqu'à 18. 17-18 ans en terminale. Mais c'était quelqu'un qui avait une réputation totalement hors norme dans l'établissement. Mais il faut savoir que les professeurs de philosophie dans les communes, dans les villes à l'époque, étaient plus que des enseignants. Ils avaient toujours une réputation anticonformiste. C'est-à-dire, dans ce monde où il y avait quand même un conformisme, il y a la consommation, il y avait toujours des gens qu'on respectait, qui étaient respectés, y compris par les gens du peuple, en disant, mais c'est un philosophe, c'est un littéraire, c'est un poète. Donc, on respectait en même temps ces gens-là, qui étaient hors normes. Et si vous voulez, dans le parcours d'une vie, d'ailleurs, je dis à la fin de ce chapitre, bienheureux ceux qui, dans un parcours de vie, pourront rencontrer des maîtres comme ça. Oui. Après, vous pouvez vous révolter contre eux, mais ils vous auront marqué. Et la question qu'il faut poser, dans les méthodes d'éducation qui, le post-68, ce que j'appelle l'héritage impossible de mai 68, s'il n'existe plus cette dimension où vous rencontrez des maîtres à un moment donné qui... Moi, il m'a un peu, si vous voulez, permis de... Je ne serais pas ici, en train de vous parler, si je ne l'avais pas rencontré. On avait l'impression d'être compris, si vous voulez, et surtout, il savait repérer chez les jeunes, les aider à aller plus loin, ça c'est extraordinaire. Parce que moi j'étais en révolte à l'adolescence à 15-16 ans, je commençais à m'en désintéresser comme vous. Et lui m'a fait découvrir par exemple la musique classique et la peinture. C'est quand même, avec un élément...
La lumière chez Rembrandt.
Voilà, la lumière chez Rembrandt. Il écrivait des textes dans un bulletin, je les ai fait lire à mes enfants, il y avait un enthousiasme, c'était pas l'analyse structurale de l'œuvre, si vous voulez, voyez. C'était quand même, on vous enthousiasmait, on vous est rentré dans la peinture. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, moi j'ai été élevé au livre de poche. C'est très important, et à la vulgarisation des peintures, que Malraux d'ailleurs avait développé. Par la vulgarisation, vous pouviez vous procurer pour une somme modique les chefs-d'œuvre de l'art.
Et d'ailleurs, ce qui est frappant, on peut pas tous les citer, c'est votre boulimie à l'époque de l'adolescence. Vous lisez tout, en fait.
Ben, oui, parce que si vous voulez, c'est aussi un moyen de travailler l'imagination. Je suis pas dans un milieu intellectuel. Mes parents lisent la presse de la Manche, vous voyez. Les livres qui traînent à la maison, c'est des livres religieux. Donc, c'est avec vos amis du secondaire que vous allez pouvoir partager. Et là, effectivement, je découvre la littérature, et là, je deviens un passionné de littérature. Et ensuite
et de philosophie aussi, oui, effectivement. Alors Jean-Pierre Le Goff, on va écouter d'autres voix, un dernier extrait sonore qui évoque cette époque, avec d'abord la voix d'André Malraux, et quelle voix, et dans quel contexte, le transfert des cendres de Jean Moulin le 19 décembre 1964, et puis ensuite une petite surprise qui illustre formidablement bien la rupture.
Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellé de tortures. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés. Grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps. Et quand la trouée des alliés commence, regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les commissaires de la République, sauf lorsqu'on les a tués. Tu as envié comme nous les clochards épiques de Leclerc. Regarde, combattants, tes clochards sortir à quatre pattes de leur maquis de chêne et arrêter avec leurs mains paysannes formées au bazooka l'une des premières divisions cuirassées de l'Empire hitlérien, la division d'Assrache. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
Papa, papa. J'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, aide tes frères, tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre, il me l'a ramenée en pièces détachées. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu devrais, ma parole, retourner bien vite à l'école. Tu m'avais dit pour me mettre en confiance que le travail conserve la santé. J'ai travaillé.
Quelle formidable idée de mettre en opposition André Malraux et puis Chalas. Le contraste est brutal, mais on change d'époque en fait.
On est exactement dans la contradiction qui va éclater en mai 68. Entre l'ancien récit de l'épopée gaulliste de la résistance et une nouvelle société hédoniste de consommation et de loisirs, dont le vecteur est la musique rock pour le peuple adolescent, pour ce que j'appelle le peuple adolescent. Au moment où il y a ce discours qui rappelle les sacrifices de la résistance, les tortures dans les caves, la Gestapo, Jean Moulin, etc. Eh bien, c'est l'époque du yéyé. On est vraiment dans cette contradiction d'avant-centre.
Vous écrivez, le divorce était trop grand, l'idéal qui associe étroitement la liberté à la mort et au sacrifice décalé. Comment pouvoir encore s'identifier à ce visage de la France martyrisée dans un pays qui désormais ne semblait plus préoccupé que par les courbes de croissance, la réussite professionnelle, le week-end et le tiercé.
Oui.
Ça s'est pas rangé depuis. Hein.
Non, je pense que c'est même... On était à l'époque coincé entre, j'allais dire, on était un peu orphelin, enfin moi en ce qui me concernait, ce qui va donner le gauchisme, on était orphelin de l'épopée de la résistance, si vous voulez, et orphelin de l'épopée de la révolution dans lequel on avait eu le récit, et en même temps, on voyait qu'on n'était plus dans cette France-là. Godard avait une formule, il parlait des enfants de Marx et de Coca-Cola. C'est-à-dire, vous étiez encore dans l'histoire, mais la guerre d'Algérie avait été terminée. De Gaulle avait dit, entre la période 62-68, et je crois que c'est rapporté par Perfit ou quelqu'un d'autre, en disant, mais je n'ai plus grand chose à faire. C'est-à-dire, on est vraiment dans cette époque. Et je pense que, à ce moment-là, les sociétés, la France vit en paix, la France paraît prospère, l'avenir paraît tout tracé. Faut se poser la question si c'est pas le début de la sortie de l'histoire, d'une certaine façon. C'est-à-dire le grand récit historique, et pour un jeune qui a été encore élevé avec la guerre, les films de guerre, la résistance, etc., ben vous êtes dans cette contradiction, vous écoutez en même temps Dylan, vous écoutez en même temps du rock, et en même temps vous êtes là. Et ça va donner, après 68 pour moi... retrouver une dimension d'aventure dans une société que dans laquelle je trouve qu'il n'y en a plus, quoi. Il n'y a plus d'épopée.
Alors vous racontez cette adolescence, vous grandissez, vous passez votre bac avec difficulté, vous devenez un rebelle, hein, vous commencez à devenir un rebelle, mais vous arrivez à Caen pour commencer vos études universitaires, et là, en arrivant à Caen, vous commencez une autre vie. Là commence un peu 68.
C'est-à-dire que vous êtes déraciné, c'est-à-dire vous passez de rapports personnels avec les professeurs en terminale, des rapports très privilégiés de discussion le soir, en dehors des cours. Vous sortez de la famille, vous sortez du milieu familier dans lequel vous êtes né, la campagne, etc. Vous vous trouvez projeté dans une grande ville qui a été à moitié rasée par les bombardements de l'après-guerre, qui a été reconstruite, qui est neuve, qui a des grandes allées. Vous avez un sentiment de liberté. Vous logez dans une chambre d'étudiant, en même temps de vide. Puisque c'est un monde étrange. Et dans cette usine, enfin, on appelle les étudiants de Nanterre, parleront plus tard d'usine à diplôme. C'est-à-dire, c'est un monde très impersonnel. Vous passez d'une salle de cours, vous devez vous débrouiller avec des amphis où il y a quand même près de 1000 personnes. Donc, vous êtes un déraciné, d'une certaine façon. Et n'oublions pas les nouveaux campus où, j'allais dire, qui sont formés un peu comme à Nanterre, où vous vivez dans l'entre-soi, avec, il y a une cité, il y a des grands campus à l'anglo-saxonne, sauf que les enseignants ne logent pas, par rapport aux différences au campus anglais, vous voyez. Et c'est un milieu où le milieu étudiant va faire monter, si j'ose dire. C'est-à-dire la culture étudiante adolescente de révolte, dans ce campus qui est très joli d'ailleurs, qui est neuf, eh bien tout ça va faire monter, la révolte va faire monter à l'intérieur de ce monde, avec ses cafés, on va refaire le monde et ça va exploser.
Alors vous particulièrement, hein, parce que vous êtes entre Nietzsche, Sartre, les discussions politiques, l'engagement politique, c'est là que ça fermente sérieusement chez vous aussi, si j'ose dire, Jean-Pierre Le Goff. Et d'autant que dès le début de 68, à Caen, il se passe des choses.
Bien, on dit souvent qu'à Caen, mai 68 a commencé en janvier 68, avec une... C'est pas les étudiants. Enfin, il y a eu quelques manifestations au moment de l'avenue de Perfit, en janvier, où j'étais.
Qui était le ministre de l'Éducation.
C'est la première manifestation, on jette des œufs, mais enfin, ça reste... C'est plus qu'un chahut, déjà. Mais c'est surtout... la révolte des ouvriers de la Servienne, les luttes des ouvriers de la Servienne pour une augmentation...
La Servienne qui était une usine de fabrication de camions, non ? D'autocars aussi ?
De cocars et de camions. Ça fait partie, si vous voulez, des grands plans de décentralisation dans l'Ouest, où il y avait d'ailleurs une manœuvre nouvelle qui est arrivée. Au départ, la Savienne, c'est des ouvriers qualifiés, mais très vite, c'était des jeunes ouvriers qui venaient des bourgs et des campagnes, qui avaient un CAP, un BEP, qui était, enfin, je sais pas si c'était un BEP à l'époque, mais qui était quand même qualifié, qui vont se trouver jetés dans des conditions nouvelles, à la fois de la ville nouvelle, de l'usine nouvelle, mais avec le taylorisme. C'est-à-dire des méthodes d'organisation du travail avec des petits chefs, des cadences, etc. Et là, il y a une révolte, si vous voulez, de ces jeunes qui n'ont pas du tout, d'ailleurs, comme nous, j'allais dire, comme moi qui suis étudiant, même si le contact ne se fera pas si facilement, mais qui n'ont pas de forte tradition. C'est pas le PCF et la CGT, vous voyez. Et c'est la CFDT dans l'Ouest qui va justement essayer d'encadrer un peu cette nouvelle main-d'œuvre. Et il y a des affrontements, il y a une manifestation qui est vraiment à marquer les esprits.
Assez violente, hein.
Oh, mais qui était plus que violente. C'était une émeute ouvrière. Ouais. C'était une émeute ouvrière avec des nouveaux ouvriers qui affrontaient la police et que les organisations syndicales avaient plus ou moins de mal à encadrer, vous voyez. C'était vraiment, là, il y avait un facteur générationnel, là aussi, qui a existé.
Alors, en mai 68, quand commence la révolte à Paris, où êtes-vous? Vous êtes à Caen?
Moi, je suis à Caen, ouais. Et j'ai l'oreille.
Excusez-moi. Sur le transistor?
Sur le transistor, et vous avez l'impression, en écoutant les informations, que c'est la révolution à Paris. Et d'ailleurs, je pense que là, il y a un phénomène de mai 68, là aussi, qui est tout à fait nouveau, qui nous fait entrer dans le monde, c'est le rapport entre les événements réels et l'amplification qui est donnée par les médias.
Et notamment le rôle de la radio.
Et le rôle de la radio en direct.
En direct.
Ça commence déjà avec RTL et Europe 1. Ouais. C'est pas la radio officielle. Ouais. Mais vous avez le ton enflammé des reporters et vous avez l'impression que ça y est. Et surtout quand vous avez 18 ans, 19 ans, vous voyez la révolution. Et alors, je veux partir à Paris. Et manque de peau, je tombe sur un groupe, un commando d'extrême droite. Là, je découvre avec les croix celtiques, j'ai peur, etc. Après, j'aurais plus peur, je signale. Mais c'est ma première expérience d'affrontement ça. Voilà, ça fait partie de la vie, quoi.
Terminons cette émission avec la réflexion que vous faites à la fin de votre livre, qui s'intitule La France d'hier, sur l'arrivée d'une époque adolescente, en fait. Hein. Vous écrivez « L'adolescent devient un modèle type d'individu qui fait de l'intensification du présent un mode de vie qui a tous les traits d'une fuite existentielle et du divertissement pascalien. Nous y sommes toujours. »
Ah ben je crois qu'on y est, oui. Mais ça commence en 68, pour la première fois.
Le modèle adolescent.
Voilà. Mais une classe d'âge devient un acteur social et politique. Avant, vous avez des chahuts, vous avez des petites révoltes. Mais là, tout d'un coup, on occupe l'espace public et, je veux dire, on le quittera plus. C'est une espèce de moule de la révolte. Quand vous regardez les luttes qui vont suivre après 68, les lycéens, etc., va se prendre ce modèle. Alors, mon hypothèse que je fais, c'est que progressivement va se mettre en place, l'adolescence ne sera plus simplement une classe d'âge intermédiaire entre l'enfance et l'adolescence. Elle va s'élever en période centrale de la vie, à l'aune de laquelle tout ce qui suit est décadence, et va devenir une nouvelle structure de comportement social. Et qui est marquée notamment, regardons l'adolescence, tout est possible à tout moment. Le rêve, l'imagination, la révolte contre tout ce qui, de près ou de loin, représente l'autorité, la verticalité, la hiérarchie. C'est normal, à cet âge-là. Le problème, c'est quand ça s'élève, en nouveau, une espèce d'idéal type, si vous voulez, de comportement, je pense, ça dépasse l'âge, puisque vous pouvez avoir 60 ans, vous avez l'impression que tout est possible, 70 ans, tout est possible, vous habillez comme comme si vous aviez 20 ans. Hein, bon, je ne citerai personne, mais bon, vous voyez bien qu'il y a quand même un décalage, une difficulté à vieillir, avec le jeunisme. Eh bien, je pense que ça est un défi considérable pour les sociétés démocratiques. C'est-à-dire, ça crée une mentalité qui ne va pas dans le sens d'une éthique de responsabilité.
Alors, à propos des 68ards, vous écrivez de certains d'entre eux, vous parlez d'une frange bien particulière des 68ards qui se sont appropriés l'événement.
Bah, c'est ce que j'appelle la belle histoire racontée aux enfants et histoire écrite par les vainqueurs. Ce sont des personnages qui vont devenir célèbres dans les années 80, soit en se reconvertissant à l'intérieur du Parti Socialiste, soit en devenant des vedettes médiatiques, si vous voulez. Or, ce qui est oublié dans cette belle histoire, en gros, la belle histoire, c'était des révolutionnaires, bon, mais enfin, ils ont modernisé la France, surtout dans le domaine des mœurs et de la culture. Ce qui permet, si vous voulez, d'évacuer les dégâts de ce que j'appelle l'héritage impossible de mai 68. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur la touche. Il y a eu des divorces, il y a eu les enfants. Tout ça, il y a eu du tragique dans l'histoire de mai 68. C'est pas cette belle histoire avec le mythe fondateur premier, vous voyez. Et aujourd'hui, je vois aussi qu'il y a une tendance peut-être inverse, qui en a assez de toute cette belle histoire qui existe depuis 30 ans, mais qui va de l'autre côté. C'est-à-dire qui donne à 68 la responsabilité de tous nos maux. Mais les 68ards, moi, je suis très critique sur l'héritage impossible de mai 68 et la responsabilité des 68ards, qui étaient des héritiers rebelles et des héritiers quand même, parce qu'ils avaient été élevés dans l'ancien monde, avaient reçu une transmission, et à un moment donné, le fil de la transmission est rompu.
Oui, parce que eux n'ont rien transmis.
Eh bien, ils ont laissé un champ de ruines, si vous voulez, derrière eux. Et moi, je donne souvent cet exemple pour les enfants, où les nouvelles générations errent dans un champ de ruines avec des restes de pierres. Ils prennent une pierre, ils la mettent là, elle est bleue, une autre est rouge, et ça forme leur colonne vertébrale. Et les anciennes générations sont décontenancées, parce que ils trouvent que tout ça n'a pas de cohérence. Et ça, je pense, pourquoi ce récit? C'est parce que je pense que pour moi, il y a vraiment de quelque chose de très important, c'est de renouer le fil de la transmission. C'est pour moi, je vais dire, presque un devoir, surtout que j'ai fait partie de cette génération-là.
Oui, et vous, vous êtes engagé vraiment, enfin, on critique souvent les 68 ans en disant, oui, bon, ils se sont reconvertis, ils sont devenus patrons de journaux, ils ont fondé leur entreprise, ils sont devenus richissimes, ils ont fait de la politique, etc., etc. Il y en a certains, et d'autres ont suivi fidèlement un parcours, je dirais, politique au sens large, même philosophique, c'est votre cas, en fait. Hein,
bah, après moi, 68. J'ai suivi un parcours en voulant aller au bout des idées, si vous voulez. La fameuse classe ouvrière dont on parle tant, qui était révolutionnaire, j'ai voulu aller voir ça de plus près. Je l'ai vu, j'ai d'ailleurs tissé des liens amicaux avec des... Parce que vous aviez des fortes personnalités, mais c'était individuel. Mais la classe ouvrière comme telle, eh bien, c'était pas celle dont vous rêviez en tant qu'adolescent, voulant à tout prix qu'elle soit révolutionnaire. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'il y avait des parcours quand vous rencontrez des anciens résistants dont le père était fusillé. Bon, ça vous impressionne quand vous avez 20 ans, vous voyez. Donc, au point de vue expérience humaine et professionnelle, ça se termine par un échec, mais je ne renierai pas cette expérience humaine et professionnelle. Par contre, je suis très critique, et j'en ai même un peu honte pour dire les choses, il y a de l'idéologie aussi, il y a du fanatisme. Et ça, je le porte pas comme certains, en disant c'est formidable, j'ai été Mao, j'ai été ceci. Non, il y a aucune raison, vous avez été fanatique à un moment donné. Bon, et le problème, c'est vous cassez la figure, ou vous rebondissez, ou vous rebondissez pas. Qu'est-ce qui vous fait rebondir, c'est le terreau éducatif premier. Et à ce moment-là, moi, par exemple, j'ai perdu 10 ans, non pas d'expérience humaine, mais de culture. Je continuais à écouter de la musique en douce ou la poésie, vous voyez, à côté de Mao, de Lénine et de tout ça. Hein. Mais il y a un moment donné où, à ce moment-là, vous reprenez vos études dans des conditions difficiles parce que vous avez tout lâché et faut recommencer. Et vous rebondissez. Voilà. Et donc, ça va être un travail, je pense qu'on n'est pas si nombreux à avoir fait, qui n'est pas simple. Simplement, je passe à autre chose, j'étais bête, etc. Mais je m'interroge sur pourquoi ce parcours. Et notamment ce que j'ai appelé quand même le totalitarisme. J'ai retravaillé avec, j'avais connu un professeur qui s'appelait Claude Lefort en 68 sur le totalitarisme. Donc, vous étiez jeune, on n'a tué personne, c'est pas les anciennes générations, c'est pas le goulag non plus. Mais n'empêche qu'on a participé d'une idéologie totalitaire. Or, il est important d'arriver à analyser par un travail intellectuel les mécanismes. Si vous faites ça, enfin, il me semble que vous êtes totalement vacciné, et du coup, la démocratie vous apparaît sous un autre angle, la République vous apparaît sous un autre angle. Et je suis devenu, effectivement, après ce travail... intellectuel, j'insiste là-dessus, démocrate et républicain. Et assez fier d'être français, si vous voulez. Ouais.
Merci en tout cas Jean-Pierre Le Goff d'être venu nous parler de cette France d'hier à partir de votre livre qui porte le même titre, La France d'hier, récit d'un monde adolescent des années 1950 à mai 68, un livre publié chez Stock, et peut-être aurons-nous l'occasion de revenir avec vous sur mai 68. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.
Idée réalisée par Vanessa Rovansky, prise de son Steven Esli. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro consacré à mai 68. Nous serons en compagnie de l'historienne Emmanuelle Loyer, mais dans un instant, un nouveau journal sur RFI.